au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Connaissez-vous l'histoire épatante des trois compères amateurs de supercherie en tout genre, connus des petits et des grands, trois personnages de la bande dessinée française, figure pionnière de cet art aujourd'hui devenu universel, Trifouldingue, Croquignol et Filochard, j'ai nommé les pieds nickelés, trois escrocs de légende créés par Louis Forton en 1908. Alors découvrons l'esprit de la bande des pieds nickelés en compagnie de Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques qui vient de publier chez Armand Collin en mars 2008 les pieds nickelés de Forton. Jean Tullard, bonjour.
Bonjour.
Jean Tullard, qui était Louis Forton ?
Alors Louis Forton, qui est effectivement le père des pieds nickelés, est un dessinateur professionnel qui est l'un des premiers maîtres de la bande dessinée. En réalité, ce n'est pas un passionné de travail, ce n'est pas un passionné de dessin. Il vient le matin au journal, esquisse les planches, puis il va ensuite faire un gueuleton, selon l'expression de l'époque, à tout casser, superbement arrosé. Il se rend ensuite sur les champs de course où il dépense les gains de ses bandes dessinées et il va ensuite se coucher le soir. Et la vie reprend le lendemain. On s'attendrait à voir un aventurier, à voir un personnage qui a des ennuis avec la justice, puisque, comme nous allons le dire, les pieds nickelés apparaissent au moment où un mouvement de contestation contre la société bourgeoise se développe. C'est le mouvement anarchiste, avec de grandes figures comme Ravachol, comme Vaillant, qui jettent des bombes à la chambre, qui jettent des bombes à la terrasse des cafés. C'est extrêmement violent et c'est avant tout une dénonciation de la propriété. Les anarchistes remettent en cause non seulement les fondements de la société, mais la propriété. Et les pieds nickelés sont des voleurs qui s'en prennent aux riches et leur volent leur fortune. Ils ont un contemporain, c'est Arsène Lupin. Arsène Lupin est contemporain des pieds nickelés. Lui, c'est un gentleman cambrioleur, alors que les pieds nickelés sont des clochards cambrioleurs. Et on les voit, et sur la couverture de mon livre, très bien habillés. Mais dans l'ensemble, ils sont d'extraction populaire.
Le premier titre ne devait pas être les pieds nickelés. D'où vient l'expression ?
Alors, le premier titre était Les pieds sales, ce qui n'était pas très bon. Le titre vient de Tristan Bernard, un humoriste fameux, qui avait fait jouer une pièce, Les pieds nickelés. Les pieds nickelés, ça veut dire les pieds qui traînent, qui sont nickelés, c'est-à-dire qu'on ne se déplace pas beaucoup par paresse. C'est les pieds nickelés, c'était le symbole de la paresse. Mais ça ne veut pas dire le symbole de la bêtise, le symbole du ratage. Aujourd'hui, et je m'insurge contre cela, lorsque l'on voit quelques malfaiteurs, on a vu même des humanitaires essayant d'aller en Afrique sauver des enfants, on disait « ce sont des pieds nickelés ». Avec une nuance péjorative. Le mot « pied nickelé » aujourd'hui est pris dans le sens de zigoto incapable. En réalité, les pieds nickelés sont, eux, très capables, et nous allons le voir. Et si on lit les pieds nickelés, on peut faire très rapidement fortune. Je ne retiendrai qu'un seul exemple pour vous donner une idée, si vous ne voulez pas continuer à écouter cette émission, mais que vous voulez savoir ce que sont les pieds nickelés et comment on peut gagner de l'argent, voici un exemple tiré des pieds nickelés. Les pieds nickelés vont dans un très grand restaurant, que je ne nommerai pas, qui a des salons particuliers. Et ils font un repas à tout casser dans un salon particulier, arrosé des plus grands crus, des mets les plus choisis, ce qu'il y a de plus cher, et à la fin, Trifouldingue, le barbu, appelle pour le serveur pour lui demander la note. La note arrive avec le serveur est assommé par les pieds nickelés, mis sous la table. Les pieds nickelés laissent passer un certain temps, un quart d'heure, puis Trifouldingue appuie sur un bouton, Alors cette fois, c'est le patron qui vient et Riboudin lui dit « Ah, mon ami, ayant changé de veste, j'ai laissé mon chéquier dans ma veste, donc je n'avais pas de chéquier sur moi et j'ai payé avec une grosse coupure d'1 million. Alors j'attends la monnaie. Ah, » le patron est un peu éberlué et cherche le garçon qu'il ne trouve pas. Et il en conclut que s'il ne le trouve pas, c'est comme c'était une très grosse coupure, le garçon est parti avec. Il revient donc avec la monnaie sur cette coupure fictive, s'excuse, offre un digestif supplémentaire, offre des cigares et salue très respectueusement les pieds nickelés quand ils s'en vont. Et c'est le lendemain matin, la femme de ménage qui découvrira le serveur avec la note sous la table. Alors, voilà un exemple pour ne pas payer dans un grand restaurant. Et alors, c'est rempli, les
pieds sont les as de la débrouillardise, oui. De l'escroquerie en tout genre.
Oui.
Et une façon, effectivement, de faire fortune par tous les moyens.
Par tous les moyens,
dans toutes
en
les
escroquant ce qu'on appelle, c'est l'expression remonte à la monarchie de Juillet, les gogos. On dirait aujourd'hui les bobos. On les roule parce qu'au fond, ils sont idiots. Mais les pieds nickelés ne veulent pas ces gens pour redistribuer aux pauvres. Ce n'est pas du tout Robin des Bois. Les pieds nickelés volent pour leur propre agrément, pour leur fortune. Il n'y a pas de message social. Par ailleurs, il faut ajouter deux choses, car les pieds nickelés s'adressent quand même à un public enfantin. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de crime et il n'y a pas de sexe. Certes, à un moment donné, Ribouledingue s'est marié avec une brave africaine qui s'appelle Blanche de Pastille, ce qui n'est pas un jeune mot qui serait convenablement politique aujourd'hui. Et bien entendu, il oublie au détour d'une planche Blanche de Pastille et la note de l'hôtel dans un hôtel de luxe.
Quelle était l'originalité de la démarche de Louis Forton ?
Alors, l'originalité, elle est d'abord technique. C'est l'invention de la bande dessinée. Certes, il y avait eu avant Christophe, avec ses chefs-d'œuvre bien connus, que sont le savant Cosinus, le sapeur Camembert et la famille Fenouillard.
Il y a toujours eu beaucoup d'humour dans le début de la bande dessinée.
La bande dessinée...
Même, c'est un genre réservé à l'humour, j'allais dire.
Oui, c'est un genre comique.
Voilà.
Effectivement, la bande dessinée s'adresse à un public enfantin et on ne lui donne pas la violence qui va arriver après, c'est des histoires drôles avec des jeux de mots. Et donc,
l'originalité de la
l'originalité de Forton, tout en continuant Christophe, rompt dans la mesure où c'est une bande dessinée. C'est-à-dire que les aventures des pieds nickelés se poursuivent de planche en planche. Il n'y a pas rupture comme dans certains Christophe, comme il y aura ensuite même avec celui qui va suivre, Alain Saint-Augan. De même que pour Bécassine, qui est contemporaine des pieds nickelés, les histoires forment un tout, alors que les pieds nickelés, ça se poursuit. C'est pour ça que c'est une bande dessinée qui va de page en page, et dont les aventures se poursuivent. On s'interrompt un moment, on s'interrompt au bas de la planche, mais ça reprend en haut de la planche suivante. Donc, c'est une bande avec un texte. L'invention de Forton, c'est aussi de n'avoir pratiquement pas de bulle. Et Forton est quand même l'un des premiers à en mettre, alors qu'ensuite, avec Alain Saint-Augan, et surtout avec Tintin qui va arriver après, ce sera le triomphe de la bulle.
Oui. On a un texte assez
très élaboré,
sous l'image, et parfois une ou deux bulles rajoutées qui mettent en valeur un mot ou une expression, mais sans plus.
Mais, donc il utilise... l'un des premiers, la bulle, mais très peu. Tout est dans le commentaire, dans le texte. Un texte qui est écrit un peu en argot, ce qui fait donner l'impression des fois d'avoir vieilli, un peu comme Léo Mallet avec Nestor Burma, qu'aujourd'hui on a plus de mal à lire. Mais dans l'ensemble, c'est un argot très limité. Il y a des expressions qui ont vieilli, mais très peu. Alors le texte, ce texte même, est effectivement extrêmement séditieux. Je vous ai dit comment on avait le moyen de ne pas payer au restaurant, comment de ne pas payer dans le train, ça, alors dans les transports en commun, c'est l'enfance de l'art. Et il y a une volonté d'escroquer les gens en exploitant leurs bêtises. Par exemple, les pieds nickelés, lors de l'exposition coloniale de 1931, ouvrent une baraque foraine. Et dans cette baraque foraine, ils présentent des attractions. Bien sûr, les gogos s'y précipitent car on leur annonce qu'il y a la femme à barbe. Mais la femme à barbe s'est précisément rasée ce matin. Elle n'a plus de barbe. Il y a l'homme qui vit et boit sous l'eau. Et c'est un homme tout à fait ordinaire qui mange et boit avec un bocal d'eau attaché sur la tête. Et puis, il y a également... C'est un homme tout à fait ordinaire sur une estrade. Alors, on regarde cet homme et on lit le cartouche. On voit, cet homme tout à fait ordinaire, le plus petit géant du monde. Ce qui est oui, extrêmement fort, il vous montre la relativité des choses. De même, ils vont exploiter les imbéciles qui viennent les consulter lorsqu'ils sont médecins.
Ah oui,
docteur, là, il y a toute une... j'ai un verre solitaire. Fermez les yeux, avalez, vous êtes guéri. Ah oui, votre verre était solitaire, vous venez d'en avaler un deuxième, donc votre verre n'est plus solitaire. Et docteur, j'ai la vue basse. Eh bien, montez sur la tour Eiffel, votre vue sera haute.
Voilà, et j'ai un lumbago.
Oui, alors ça, dites-le. Une plaisanterie, hein, des gens qui ont mal au dos. Docteur, j'ai un lumbago. Ce n'est pas très grave. Prenez des ciseaux et coupez-le, votre lumbago sera court.
Alors, il y a un esprit pianiclé.
Oui.
D'humour qu'on vient de voir, mais comment aussi Louis Forton utilise l'actualité et l'histoire, c'est-à-dire que ses personnages, il les fait évoluer dans le contexte, c'est un peu, est-ce que ça correspond aussi à l'ère du temps, comme on faisait dans l'esprit des revues de l'époque,
oui,
ou bien est-ce qu'il prend vraiment toute liberté pour s'amuser, pour continuer à s'amuser ?
Les hommes politiques apparaissent au début, après on les voit moins, mais au début les hommes politiques apparaissent, et on voit Jaurès, Caillaux, quelques autres, qui sont dessinés ressemblants, on les indique dans le commentaire. Et les pianiclés eux-mêmes, donc, deviennent ministres. Ils deviennent ministres.
Députés, je crois.
Oui, députés, ils se sont partagés les rôles. C'est-à-dire Ribouledingue, le barbu, est socialiste, Croquignol est royaliste, et Filochard, le borgne, est centriste. Alors, évidemment, avec eux, il est incontestable que le déficit du budget s'accroît de façon très considérable, tandis que disparaissent les vases de Sèvres dans les ministères, etc. Ils font tous les métiers. Ils font donc de la politique. Et alors, on voit apparaître les hommes politiques. Ils font aussi le métier de directeur de l'opéra. Si l'on voulait leur confier l'opéra, il est évident que l'opéra ne serait plus déficitaire. En effet, ils présentent, par exemple, un spectacle extraordinaire avec 25 changements de décor. Et alors, tout le Paris est là. Effectivement, l'orchestre entame l'ouverture. Et puis, effectivement, le rideau ne se lève jamais. Et à la fin, Croquignol apparaît et dit, braves spectateurs qui sont là, écoutez, voilà, le machiniste a dû procéder à 25 changements de décor. Alors, il a un moment de distraction, comme c'était très absorbant, il a oublié ce petit détail, c'est-à-dire de lever le rideau. Vous voudrez bien le lui pardonner. Alors, ils inventent aussi le vestiaire au pied des fauteuils. Lorsque vous arrivez à l'opéra, votre vestiaire, vous ne le confiez pas à un vestiaire, vous avez votre vestiaire à vos pieds. Alors on explique qu'ainsi, on fait l'économie du pourboire. On fait, malheureusement, cette petite économie, vous allez voir. On est sûr de retrouver son manteau, il n'y aura pas de confusion. Et puis, on est sûr qu'on ne vous le volera pas. Donc, après la représentation, c'est une petite trappe. Quand les clients lèvent la trappe, le manteau de fourrure remplacé par une minable peau de lapin, il n'y a plus rien dans les poches, etc. Et les pianiclés leur disent, mais... qu'est-ce que vous voulez y faire ? Il fallait faire attention, c'était sous vos pieds, donc comment aurait-on pu vous voler ? Mais ils ont aussi des malheurs. Hein. L'opéra, comme ils font des économies sérieuses, ils décident de limoger le corps de ballet qui coûte très cher, et puis ces danseuses, ces ballerines sont agaçantes. Donc on les remplace par les ouvreuses. Alors évidemment, ce sont les ouvreuses qui n'ont pas tout à fait les charmes, surtout ce sont des ouvreuses assez vénérables. Alors là, ça finit mal. De même qu'à un moment donné, ils embauchent un acteur qui n'a qu'une phrase à dire, « Je suis Assur Banipal ». Et le type est tout ému, il a un peu picolé avant, et il arrive et il dit « Je suis Assur Nibapal, Banipal ». Et toutes les possibilités autour du nom d'Assur Banipal, il passe, et évidemment c'est le désastre pour la pièce.
Quelles ont été à vos yeux les plus belles audaces de Louis Forton ?
Alors les audaces de Louis Forton, c'est par exemple de faire voler les bijoux de la couronne à Londres.
Oui.
C'est quand même extraordinaire. C'est une audace, si fait qu'on n'a plus envie d'aller à Londres, puisque les pieds nickelés ont volé les bijoux de la couronne. Vous savez comment ils font. C'est Ribaudin, plus exactement, fait le guide, et il a tour de Londres, et il dit, mais vous savez, les fantômes des enfants d'Édouard se promènent encore dans cette tour. À tout moment, nous pouvons les rencontrer. Alors, la voix tremblante, et à ce moment-là, surgissent. Ils sont très peu enfants d'Édouard. Croquignol et Filochard Born, vêtus en enfants d'Édouard, qui font ouh, ouh. Alors tout le monde s'enfuit et ils ramassent les bijoux de la couronne. Et ils s'en vont avec, mais ils, comme ils sont poursuivis, on lève le pont sur la Tamise et ils laissent échapper les bijoux de la couronne qui vont finir dans la Tamise. Oui. Car il y a parfois un peu de morale. Malgré ouais. tout, les pieds nickelés ne réussissent pas toujours.
Louis Forton, il n'a pas pris de gros risques en faisant ces planches-là sur cette histoire-là. Mais par exemple, quand les pieds nickelés s'évadent de prison et échangent leurs habits de bagnard en empruntant ceux de curés qui prenaient un bain, là, il a eu toute l'église et la censure sur le dos.
Et il a la censure, c'est-à-dire que les pieds nickelés, à la porte des églises, sont interdits. Vous savez, il y a une affiche qui donne les publications autorisées pour les enfants et les spectacles aussi. Et puis, ce qui est déconseillé, gravement déconseillé, les pieds nickelés arrivent dans la catégorie la pire.
Gravement.
De même que leur lecture, il y en a une circulaire qui avait publié l'Express de l'administration pénitentiaire interdisant la lecture des pieds nickelés dans les prisons. Parce qu'effectivement, vous trouvez tous les moyens.
De manuel.
Là, vous vous évadez comme un rien. quand vous avez lu les pieds nickelés, c'est extraordinaire. Et alors, s'il y a aussi très intéressant... Ce qu'il met en valeur, c'est la rivalité des polices, la guerre des polices. Parce que les trois pieds nickelés sont toujours poursuivis par trois inspecteurs de la police judiciaire et par trois gendarmes. Et les gendarmes arrêtent les inspecteurs de la police judiciaire croyant arrêter les pieds nickelés ou vice-versa. Bref, ça finit toujours dans une très grande confusion.
Pas très, très moral.
Pas très, les pieds nickelés n'étaient pas lus dans les très bonnes familles et même dans les familles de la moyenne bourgeoisie. C'était une lecture interdite et, de façon générale, la bande dessinée, avec eux, a connu un très grand discrédit. On ne lisait pas de bande dessinée. On avait admis Christophe, parce que c'était un télo, et puis Colomb, Christophe était un savant, était donc le savant Cosinus, c'était amusant, ça n'était pas méchant. Les pieds nickelés sont très cruels, sont d'une férocité très grande, donc là, ça a été interdit, et finalement tué par l'avènement de Tintin.
Oui, ils ont été détrônés par un héros positif,
par un héros
très
positif. Ils sont négatifs.
Très clean, en dehors
oui, aujourd'hui. Oui, qui est clean, qui est pour les bonnes causes, qui est Boy Scout. Et là, alors, Tintin a réconcilié la bonne bourgeoisie avec la bande dessinée.
Mais...
Le bon Forton avait d'ailleurs senti le danger et il avait créé un personnage plus sympathique qui était Bibi Fricotin, qui a été même peut-être... qui a vécu plus longtemps que les pieds nickelés et qui a été plus populaire peut-être que les pieds nickelés. Bibi Fricotin, c'est avant Tintin, c'est le petit garçon débrouillard qui fait les 400 coups alors qu'il arrive des malheurs. Il est embauché comme valet de chambre par un homme riche qui lui dit « Eh bien, vous me servirez à table des pommes de terre en robe de chambre ». Alors évidemment, il ne comprend pas et il arrive avec des pommes de terre vêtues d'une robe de chambre.
À votre avis, Jean Tullard, quel a été le plus bel hommage du cinéma aux pieds nickelés ?
Le cinéma s'est emparé très tôt, ils sont presque contemporains d'ailleurs, puisque les pieds nickelés naissent en 1908. Nous célébrons cette année leur 100e anniversaire. C'est pourquoi j'ai fait ce livre et c'est pourquoi nous sommes à Canal Academy. C'est un 100e anniversaire. Et ils sont nés presque avec le cinéma. Oui. Et d'emblée, le cinéma les a utilisés. C'est Émile Coll, l'un des pères du dessin animé, l'un des rivaux de Méliès, qui a fait un dessin animé qui est fait sur les dessins de Forton et où l'on voit les exploits des pieds nickelés. Je signale que théoriquement, il devrait sortir dans cette bande qui est à la Cinémathèque, devrait sortir dans le commerce en DVD. Et vous pourrez donc voir l'un des premiers dessins animés qui est consacré aux pieds nickelés. Alors, il y avait une légende qui voulait que les dessins aient été faits par Benjamin Rabier. ce qui aurait été alors la quintessence, le père du dessin animé, Émile Cole, scénario de Forton, dessin de Benjamin Rabier. Vous ne pouvez pas faire mieux. Et malheureusement, il me semble que c'était Forton lui-même qui a fait le dessin et pas Benjamin Rabier.
Et plus tard, au XXe siècle, pour vous, l'esprit des pieds nickelés a été...
Il y a eu trois films sur les pieds nickelés. Il y a même eu une opérette avec les frères Jacques. Et celui qui rend hommage aux pieds nickelés, c'est, au moment près de mai 68, c'est Godard dans Pierrot le Fou, qui, à un moment donné, montre Belmondo en train de lire un album des pieds nickelés.
On voit que l'univers de ses aventures aussi a évolué entre le début, la première moitié du XXe siècle et la seconde, avec la reprise par Robert Pelos de ces trois personnages, de ce trio infernal. Pourtant, ça ne correspond pas vraiment à... Ce n'est pas tout à fait le même esprit corrosif. Oui. Vous pourriez expliquer un petit peu la différence entre entre Pelos et Forton.
Forton meurt en 1934. D'une cirrhose du foie, il ne l'avait pas volé, vu tout ce qui picolait. Et il va y avoir un remplaçant qui reste assez fidèle, Lacroix, mais pour deux albums, puis Bader reprend ça et arrive 1940. Et là, évidemment, sous Vichy, les pieds nickelés ne sont pas très bien vus. Ce sont des adversaires de l'ordre moral. Même, encore une fois, s'il n'y a pas de sexe, il n'y a rien qui puisse choquer Vichy, il n'en reste pas moins que la morale ne correspond pas à ce que l'on attend. Le grand journal pour Vichy, c'est Cœur Vaillant. C'est le scoutisme. Les pieds nickelés sont très loin du scoutisme. Et alors, ils reparaissent après la guerre en réaction contre les bandes dessinées américaines qui avaient dominé, qui avaient tué les patents où ils apparaissaient. Ils ont été tués par
Tintin. Même avant-guerre.
Oui, avant-guerre. Ouais. Ils sont tués par Tintin, puis par ces grandes bandes dessinées, Robinson, le journal de Mickey, Hop là, où apparaissent des personnes, outre Mickey lui-même, Félix le Chat, apparaissent...
Et Mandrake aussi.
Mandrake, le roi de la magie, et puis le fantôme du Bengale, qui évidemment font davantage rêver avec des aventures violentes que les pieds nucléaires, dont les escroqueries restent quand même limitées à la vie quotidienne. Ils n'ont aucun pouvoir magique, même s'ils se font passer pour fakir, le fakir tabouche bébé. Évidemment, Mandrake les tue déjà dans un premier temps, et donc il ressuscite en réaction contre les bandes dessinées avec Pelos. Mais Pelos, qui était un très bon dessinateur de l'équipe, un très bon dessinateur pour le sport notamment, qui savait dessiner Coppi, Bartali, c'était surtout les cyclistes qu'il aimait, le Tour de France, rend leurs histoires beaucoup moins violentes. On les voit même à un moment donné inviter des clochards à aller dans, ça commence comme ça, c'est l'une des premières planches, et à aller dans un grand hôtel. Ils ont réussi à rouler la direction de l'hôtel.
On retrouve l'esprit de Forton,
maintenant revu par l'abbé Pierre.
C'est-à-dire que le fruit de leur rapine va être redistribué. Il y a un message différent,
beaucoup moins
social.
Là, c'était vraiment la négation de tout. Il n'y a pas des riches et des pauvres, il n'y a pas des bons et des méchants, il n'y a que les pieds nickelés et des imbéciles.
Des gogos
que l'on roule. Et c'est tout le problème. Et il s'agit de leur arracher toutes leurs économies.
Alors pour finir, Jean Tullard, quel rapport pourrait-on faire entre Napoléon, dont vous êtes le grand historien, et les pieds nickelés ?
Alors il est vrai que Napoléon n'apparaît pas dans les pieds nickelés. Il n'y a même pas de plaisanterie sur Napoléon, pas plus qu'il y en a sur Richard III, sur certains personnages, mais Napoléon n'apparaît pas. Forton, je crois, n'était peu intéressé par l'histoire de France. Il n'a pas fait de planches, comme on en fait certains, de planches éducatives. Et il est vrai que, Napoléon ne joue pas de rôle. Alors vous me direz pourquoi donc s'intéresser à Napoléon. Le lien est facile à trouver. Depuis maintenant, 1999, je passe mon temps à faire des bicentenaires napoléoniens, y compris chez vous. Alors pour une fois, on rompt et je fais un centième anniversaire. Et ce n'est plus
Austerlitz,
ce n'est plus le Conseil d'État, ce n'est plus la Cour des comptes, ce sont les pieds nickelés.
C'était le pied de nez de Jean Tullard par rapport au centenaire. Merci Jean Tullard de nous avoir présenté les pieds nickelés de Forton, paru dans la collection Une œuvre, une histoire, chez Armand Collin. Merci de nous avoir présenté ces trois personnages qui escroquent, on l'a vu, tous les gogos qui passent près d'eux. Merci beaucoup.